Il est 21h à Paris, 20h en temps universel.
Anne Verdaguet.
Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal en français facile. Pour m'accompagner ce soir, Sylvie Berruet, bonsoir.
Bonsoir Anne, bonsoir à tous.
À la une, ce dimanche 7 février, les élections présidentielles et législatives en Équateur avec de longues files d'attente en raison de conditions sanitaires drastiques. Reportage dans un instant à Quito.
Des dizaines de milliers de manifestants dans les rues de Birmanie, ce sont les plus gros rassemblements depuis la révolution de Safran de 2007. Il réclame le départ des militaires 7 jours après le coup d'État.
Et puis Cuba qui ouvre son économie au privé dans la plupart des secteurs. Un pas historique pour les entrepreneurs et les consommateurs cubains.
Le journal en français facile.
Des dizaines de milliers de Birmans ont manifesté aujourd'hui à Rangoon et dans tout le pays.
Des manifestations contre le coup d'État qui a renversé le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi il y a une semaine, jour pour jour. Ce sont les plus importants rassemblements depuis le soulèvement populaire de 2007, au cours duquel des dizaines de personnes avaient été tuées par les militaires. Cette fois-ci, la colère est plus forte que la peur. Marie Normand a pu joindre l'un de ces manifestants, un fonctionnaire de 52 ans. Pour lui, ces manifestations sont bien différentes de la révolte Safran de 2007 menée par les moines.
Les manifestations aujourd'hui sont plus ordonnées, plus disciplinées.
En 2007,
les moines chantaient les slogans et les gens suivaient derrière. Ils ne s'arrêtaient pas longtemps au même endroit, ils défilaient. Aujourd'hui, au contraire, les manifestants s'assoient au milieu des ronds-points avec leurs pancartes sur lesquelles ils ont marqué « Liberté pour Aung San Suu Kyi, justice pour la Birmanie ». Il y a aussi beaucoup plus de jeunes dans ces manifestations. Ils amènent de l'eau, des masques, de la nourriture pour les autres. Si quelqu'un jette quelque chose par terre, des groupes de jeunes sont là pour les ramasser. Je trouve que c'est une très bonne idée de manifester comme ça, de manière pacifique.
That is a very good idea, I think. Very systematic and very peaceful way.
Des propos recueillis par Marie Normand.
Les États-Unis ne lèveront pas pour l'instant les sanctions contre l'Iran, c'est ce que déclare le président américain.
C'est un gros dossier hérité de son prédécesseur qui avait sorti les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien et rétabli des sanctions contre Téhéran. Dans une interview à CBS, Joe Biden a déclaré que si l'Iran respectait à nouveau pleinement ses obligations, les États-Unis reviendraient à leur tour dans l'accord de 2015, mais il n'est pas question de lever les sanctions pour le moment.
Jour de vote en Équateur pour 13 millions d'électeurs appelés à choisir leur président et leurs députés.
Et il y a de longues files d'attente devant les bureaux de vote en raison des précautions sanitaires. Les autorités redoublent de précautions pour éviter les contaminations. Notre envoyé spécial, Raphaël Morand, a discuté avec des électeurs à la sortie d'un bureau de vote du centre de Quito, la capitale.
J'ai mis une combinaison sanitaire, 2 masques, 1 visière et j'ai ma bouteille de désinfectant.
Dans ce bureau de vote de Quito, il n'est pas rare de voir des électeurs qui viennent voter en combinaison intégrale, comme Liliane, cette retraitée. Malgré la pandémie de Covid et la saturation de beaucoup d'hôpitaux du pays, l'Équateur a maintenu les élections présidentielles et législatives avec les précautions de rigueur. On demande également aux électeurs de venir le matin pour ceux qui ont un numéro pair de carte d'identité et l'après-midi pour les numéros impairs. De longues files d'attente se sont formées dès le matin à l'entrée des bureaux de vote. Il faut rappeler que le vote est obligatoire en Équateur sous peine d'une amende de $40.
Nos préoccupations principales sont l'emploi, la santé et la délinquance.
Sylvia Hurtado sort du bureau de vote, elle a voté blanc. Aucun des 16 candidats en lice ne l'a convaincue. Selon les derniers sondages, les deux favoris sont l'économiste Andrés Arauz, dauphin de l'ex-président de gauche Rafael Correa, et son adversaire, le banquier Guillermo Lasso, qui mise au contraire sur un programme néolibéral pour relancer une économie en crise à cause de la baisse des prix du pétrole. Raphaël Morand, Quito, RFI.
En Haïti, les autorités annoncent avoir déjoué une tentative de coup d'État.
Le président Jovenel Moïse a même dit avoir échappé à une tentative d'assassinat. 23 personnes ont été arrêtées au total. Le président haïtien soutient que son mandat à la tête du pays court jusqu'au 7 février 2022. Mais cette date est dénoncée par une partie de la population haïtienne qui estime que le mandat de 5 ans de Jovenel Moïse arrive à son terme un an plus tôt, c'est-à-dire aujourd'hui.
Cuba ouvre son économie à l'activité privée.
On est bien loin de la révolution socialiste menée par Fidel Castro. L'île a en effet annoncé que l'activité privée serait désormais autorisée dans la plupart des secteurs. Une réforme majeure, alors que jusqu'à présent, seule une poignée de secteurs avaient légalement accès à l'activité privée. L'objectif du gouvernement cubain, favoriser l'emploi et la production, Alexis Bédu.
C'est une étape importante, dit le ministre de l'économie Alejandro Gil. La liste des 127 activités autorisées au privé n'est plus. Désormais, il sera possible de prendre une licence dans un grand nombre de secteurs. Actuellement, 600 000 Cubains travaillent dans le privé. Cela représente 14,5% de la population active, principalement dans la restauration, les taxis ou encore les locations de chambres touristes. Cette ouverture du gouvernement, ce n'est pas un changement d'idéologie. Elle se fait dans un souci d'augmentation de la production, selon Jérôme Leleu, spécialiste de l'économie cubaine.
Là, on va avoir un basculement avec un secteur privé qui va pouvoir se développer dans un ensemble de secteurs productifs, et en particulier, je pense au secteur agroalimentaire. Il y a un enjeu également de concurrence, de compétitivité beaucoup plus importante qui va se jouer entre le secteur privé et le secteur d'État. Les autorités cubaines ont besoin, pour substituer des importations, d'augmenter la production nationale. Et le secteur privé est vu comme une source potentielle d'augmentation de cette richesse nationale. Donc c'est aussi un choix de survie économique et également politique.
124 secteurs devraient toutefois rester réservés à l'État, des domaines stratégiques comme la presse, la santé et la défense.
La lutte contre le coronavirus à présent, Israël a commencé aujourd'hui à sortir de son troisième confinement.
Avec un coup d'accélérateur aussi de sa campagne de vaccination. Du côté des vaccins justement, celui du laboratoire britannique AstraZeneca ne serait pas efficace contre le variant sud-africain, selon une chercheuse d'Oxford, mais il pourrait l'être contre les formes graves du Covid. Ebola de retour en République démocratique du Congo. Le ministère de la Santé annonce aujourd'hui la résurgence du virus dans l'Est après la mort d'une femme mercredi dans la région de Biéna, dans le Nord Kivu. Des analyses ont permis de confirmer qu'elle était décédée des suites d'Ebola. En novembre dernier, les autorités congolaises avaient annoncé la fin officielle de la 11e épidémie de ce virus.
Les ONG de défense des LGBT inquiètent après l'arrestation dans l'ouest de la Russie de deux jeunes hommes.
Après deux jours sans nouvelles, ils ont été retrouvés dans un commissariat de Tchétchénie, la République russe du Caucase, connue pour sa persécution des homosexuels. Ils avaient pourtant fui la région. L'association qui les soutient dit craindre pour leur vie. Anastasia Becchio.
Le vice-ministre de l'Intérieur tchétchène et des policiers ont obligé Saleh Magamadov et Ismail Isaïev à renoncer à leur avocat. C'est ce qu'indique un nouveau communiqué publié sur le site de l'association LGBT7 qui leur a envoyé dans la foulée un nouveau défenseur. Mais celui-ci n'a toujours pas accès à ses clients et ignore où ils sont détenus et pour quel motif. Les deux jeunes hommes, dont l'un est mineur, ont été interpellés par des policiers dans des conditions troubles dans leur appartement de Nijni Novgorod en milieu de semaine. C'est là qu'ils avaient trouvé refuge en juillet dernier. L'ONG LGBT7 les avait évacués de Tchétchénie où ils avaient subi des pressions accusées d'être les modérateurs d'une chaîne d'opposition sur Telegram. Selon l'association, ils avaient été contraints d'enregistrer des excuses filmées où ils disaient ne pas être des hommes. Sous la torture et après avoir été jetés dans une cave, ils avaient aussi dû reconnaître l'existence de Dieu et apprendre par cœur des passages du Coran. Après avoir été interrogés dans un poste de police à Goudermès, ils ont été poussés dans une voiture et emmenés à une centaine de kilomètres de là. Pour l'association qui les défend, les deux hommes sont aujourd'hui en danger de mort.
La rupture d'un glacier dans l'Himalaya a fait au moins 7 morts.
Oui, et au moins 200 disparus. Ce glacier a provoqué une brusque montée des eaux en tombant dans une rivière. La crue a tout détruit sur son passage, engloutissant un complexe hydroélectrique et emportant des routes et des ponts dans cette région au nord de l'Inde. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous, Sylvie Berruet.
Merci, Anne.
Bonne soirée à tous.